Et bonjour à tous. Un couple américain aujourd'hui. Ils sont tous les deux invités du festival Le Goût des Autres qui s'ouvre au Havre. Aujourd'hui jusqu'à dimanche avec 4, 3, 2, 1. Un roman gigogne sous forme de compte à rebours littéraire où l'écrivain réécrit l'histoire d'un même personnage en lui offrant à chaque fois un nouveau départ. À travers lui, portrait de l'Amérique et autoportrait de l'auteur de la trilogie new-yorkaise et de Monsieur Vertigo. 7 ans après son dernier roman paru en France, Sunset Park, l'écrivain Paul Auster est notre premier invité. Avant de céder sa place à Cyrus Vett, dans les mirages de la certitude, l'essayiste américaine prône les vertus du doute. En touche à tout de la pensée contemporaine, elle engage philosophie et psychanalyse dans le royaume des neurosciences. À écouter tout à l'heure à partir de 12h55 et tout de suite, La Grande Table qui commence sur France Culture, que vous pouvez également réécouter en podcast sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et bonjour Paul Auster.
Bonjour.
Sans traducteur, ça c'est bien, on va pouvoir entendre votre français. Vous lisez et relisez vos livres aussi une fois traduits, vous vérifiez que la traduction vous plaît et vous convient.
Oui, je participe dans les traductions françaises. C'est la seule langue que je peux contribuer. Les autres, non. Mais le français, oui, c'est toujours bien pour une traduction d'avoir plusieurs paires d'yeux de regarder. Et, oui.
Et vous en avez deux, ça c'est sûr, pour l'anglais et pour le français. Paul Auster, vous auriez pu devenir un écrivain raté. Et pourtant, vous êtes un écrivain à succès, populaire, traduit dans le monde entier. Est-ce que vous y étiez prédestiné?
Non, bien sûr pas. Non, 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 non. Je ne crois pas dans ce genre de pensée. Non, non. Les choses arrivent. Pourquoi? On ne sait pas. Mais le destin, c'est un concept qui m'échappe.
Vous le remplacez par quoi?
Rien. Seulement la vie et les... Les choses arrivent, les choses inattendues, et on ne peut pas préparer pour ce que la vie nous donne. Et bon, il y a des gens comme moi qui veulent faire une chose, par exemple écrire, par exemple être médecin, par exemple être architecte, soldat, et si on arrive à faire ce qu'on a voulu, c'est bien, on a de la chance, mais il y a des milliers qui n'ont pas l'opportunité de faire ce qu'ils veulent.
Vos quatre Ferguson, dans 4, 3, 2, 1, n'ont pas tous la chance d'y arriver. Comment devient-on écrivain? Dans ce roman, vous donnez, Paul Auster, à travers les quatre vies de votre héros, Ferguson, quelques indices de ce qui vous a peut-être guidé, vous, à commencer par la poésie. Vous écrivez pour vous inventer des vies, Paul Auster, ou vous écrivez pour raconter celles des autres?
Ah, pourquoi j'écris? Je ne sais pas. C'est une sorte... De toute façon... Répondre à la question pourquoi, c'est très difficile. On écrit parce qu'on veut écrire. Je crois que ça, c'est la réponse. Plutôt, j'ai un goût pour raconter. Et j'ai écrit plusieurs romans maintenant. Et chaque fois, j'essaie d'aborder le matériel d'une autre manière de trouver des nouveaux chemins, de ne pas me répéter. Je veux toujours pousser plus loin ou dans une autre direction. Sinon, ça devient un peu mécanique, je crois. Il y a des artistes qui font une chose tout le temps, les peintres surtout. Et on peut comparer, par exemple, Braque et Picasso. Braque a fait une chose très bien pendant toute sa vie, et c'est formidable. Et Picasso a changé tous les 5 ans, et moi, je suis plutôt dans le deuxième camp, une sorte de renouvellement en permanence.
Dans votre roman Ferguson 3, parce qu'il y a un Ferguson 1, un Ferguson 2, un Ferguson 3, un Ferguson 4, et on va pas déflorer entièrement le roman, mais quand même exposer un peu sa mécanique. Ferguson 3 écrit un roman autobiographique, un roman comique, une fiction, un roman beaucoup plus imaginaire. Dans cette vie-là, vous écrivez, Paul Auster, c'est la mère qui parle à son fils. Chacune de tes phrases dit la vérité, et je ne veux pas que tu y retouches ou que tu effaces quoi que ce soit pour me faire plaisir. Ne change pas un mot.
Mais c'est pas un roman, hein. Il écrit son autobiographie. C'est autre chose. Il n'a pas le droit d'inventer. Et il écrit des choses qui s'est passé quand il avait 8 ans. Et il y a question dans le livre que peut-être il a rappelé les choses mal, c'était pas la vérité. Mais la mère dit à lui, c'était ta vérité à cette époque-là, alors tu as le droit de faire ça, parce que tu restes fidèle à tes souvenirs.
C'est la seule responsabilité de l'écrivain, rester fidèle à ses propres souvenirs.
Pas souvenirs, seulement aussi des aperçus, des pensées, des idées sur les choses. Oui, un écrivain ne peut pas mentir. C'est même si on invente les histoires, il y a une vérité dans ces histoires. Et pourquoi un écrivain sait tout de suite, quand il a écrit une phrase qui est mauvaise, qui doit être supprimée et remplacée par un autre.
C'est comme la musique, parce qu'elle sonne mal, simplement.
C'est ça. Et aussi, c'est peut-être trop superficiel, trop aisé, qui évite la vérité des choses. Alors, il faut travailler toujours, l'écrivain, sur lui-même, sur elle-même, d'arracher les choses même pénibles, mais nécessaires pour créer un livre.
La vie apporte beaucoup d'inattendus. C'est une succession d'inattendus et de surprises. Cette idée d'un monde régi par le hasard, Paul Auster, et de la littérature qui révèle les mécanismes de nos existences est présente dans toute votre œuvre, dans La Nuit de l'Oracle en 2004 déjà, dans Chroniques d'hiver encore en 2013, dans 4-3-2-1 toujours. Quel moment charnière arrivez-vous aujourd'hui à distinguer dans votre vie à vous, Paul Auster, ces moments de bascule qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui vous ont fait être le Paul Auster qu'on a devant nous?
Je crois qu'il y a ce livre, 4-3-2-1, n'est pas un livre autobiographique, mais Ferguson, quand même, les quatre Ferguson me ressemblent, mais ils ne sont pas moi. Ce livre est tiré de ma vie, mais ce n'est pas un livre sur ma vie. Mais il y a un épisode autobiographique qui est enterré dans le centre du livre. Et je crois que c'était la source du livre. C'était quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans. J'ai déjà écrit là-dessus, mais dans un récit vrai, pas dans une fiction. J'ai raconté cette histoire dans Pourquoi écrire, qui est une partie du carnet rouge des histoires vraies. C'est que quand j'avais 14 ans, j'étais à quelques centimètres d'un autre garçon de mon âge qui était tué par la foudre dans une grande orage. Et cet événement m'a changé profondément. Jusque-là, je croyais que je marchais sur un terrain assez solide. Et puis, j'ai appris que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et ça change beaucoup ce qu'on pense de la vie, du monde. Et je crois cet épisode m'a hanté toute ma vie. Mais j'ai jamais arrivé à confronter cette expérience dans la fiction. Alors je crois ce livre le fait. Mais ce livre fait mille d'autres choses à la fois aussi.
Vous voulez qu'on en parle des mille autres choses ou on reste un peu sur ces mauvais coups du destin ou du hasard?
Non, c'est pas... Je crois pour les Ferguson, c'est pas le hasard, c'est les circonstances qui dirigent leur vie, la direction de leur vie. Ils sont des garçons identiques génétiquement, ils ont les mêmes parents, etc. Mais dans chaque cas, les circonstances sont différentes. Pour le premier, les parents n'ont pas beaucoup d'argent. Pour le troisième, par exemple, le père est tué quand le garçon a 7 ans. Ça change sa vie complètement. Quatrième, le père devient riche et ça pose d'autres problèmes, d'autres questions, d'autres conflits pour le garçon.
Un extrait d'une conversation entre Archie et Noah, si vous le voulez bien, Paul Auster. Je veux dire qu'on ne peut jamais savoir si on fait le bon choix ou non. Il faudrait être en possession de tous les éléments pour le savoir. Et le seul moyen d'y arriver est d'être aux deux endroits à la fois, ce qui est impossible. Et alors, c'est pour ça que les gens croient en Dieu. Vous plaisantez, monsieur Voltaire. Dieu seul peut voir en même temps la route principale et la route secondaire, et donc Dieu seul peut savoir si tu as fait le bon ou le mauvais choix. Et comment sais-tu qu'il le sait ? Je ne sais pas, mais c'est ce que tout le monde suppose. Dieu ne nous dit malheureusement jamais ce qu'il pense. Tu pourrais lui écrire ? C'est vrai, mais ça ne marcherait pas. Quel est le problème ? Tu n'as pas de quoi te payer le courrier par avion ? Je n'ai pas son adresse. Eh oui, on n'a pas l'adresse de Dieu, Paul Auster. C'est ça le problème.
Non, pas jusqu'ici, pas moi. Il y a des gens, peut-être, qu'ils ont l'adresse de Dieu, mais pas moi. Cette conversation et ce problème théorique que Ferguson pose, il a 14 ans. C'est un moment, je crois, où l'adolescence commence. Et le corps change, bien sûr, mais aussi le cerveau. Et à l'âge de peut-être 13 pour les jeunes filles, 14 pour les garçons, ou 15, comme ça, dans ces années-là, la manière de penser change dans les personnes. On peut poser des questions abstraites, théoriques, que on ne pouvait pas faire à l'âge de 10 ans, par exemple. On n'est pas capable de penser comme ça. Alors, c'est à un niveau, un exemple du développement mental de Ferguson, mais aussi, ça pose une question qui est impliquée dans le livre, et la structure du livre aussi.
Mais Dieu est un des héros récurrents de ce roman, Paul Auster, 4-3-2-1. Il revient dans chaque histoire. Il y a toute une quête existentielle et spirituelle que vous menez aussi, oui, à travers ce personnage de Ferguson. Le problème, c'est que on a vraiment à vous lire la preuve de l'existence de Dieu que au moment de la mort, le jour où les morts apparaissent.
Oui, mais il y a l'autre, le troisième Ferguson. C'est lui qui, son père est mort quand le garçon a 7 ans. Il pensait avant que Dieu parlait à lui et qu'il pouvait écouter la voix de Dieu dans sa tête. Et Dieu lui a dit, si tu suis les règles, tu t'iras bien pour toi. Et puis, tout d'un coup, le père est tué dans un incendie. Et Le garçon est confus et furieux. Et puis, Dieu arrête de parler en lui. Il n'entend plus la voix de Dieu. Alors, peut-être Dieu est silencieux, il pense. Alors, il commence à faire des actes qui brisent les règles. Il rate ses cours à l'école, il fait des vols, il ment, il fait toutes des choses. Il attend que Dieu le punisse. Et rien ne se passe. Et le garçon est dans une agonie totale, spirituelle totale. Et il finit par ne plus croire en Dieu.
Et les dieux le regardent mourir. Du haut de leur montagne, les dieux jetèrent un coup d'œil, puis haussèrent les épaules. Ça, oui. C'est le jour de la mort de Ferguson III.
Oui, parce ça, que ça c'est lui arrivera les dieux, aussi. Pas Dieu, pas avec Dieu. Majuscule, oui, des majuscules.
Un homme, quatre possibilités, Paul Auster. L'homme n'a pas une seule et même vie, il en a plusieurs mises bout à bout. Ça, c'est Chateaubriand qui l'avait écrit dans les Mémoires d'Outre-Tombe, vous le savez bien, puisque vous l'avez cité et mis en exergue de l'un de vos livres, Paul Auster. Quatre vies qui n'en font plus qu'une, faite de lignes droites et de bifurcations, de chance et de choix. Un roman écrit un peu comme un jeu de piste, un peu aussi à la manière de Borges.
Je savais toujours que ma vie serait de littéraire. C'est-à-dire, je ne savais pas que j'allais écrire, mais je savais que je passerais ma vie à lire. Et j'écrivais aussi. Je ne me rappelle pas le moment où j'ai appris à lire et à écrire. Oui, je crois que notre destinée est tracée, mais ça ne signifie pas qu'il y a quelqu'un qui le sache. Je crois que nous sommes tous, disons, la conséquence de tout le passé. Que nous sommes la conséquence du procès cosmique, de l'histoire universelle. Puisque, en tout cas, je suis très fatigué d'être Jorge Luis Borges, je veux être personne ou n'importe qui d'autre, non?
Et vous, Paul Auster, est-ce que vous êtes parfois fatigué d'être Paul Auster? Est-ce que, comme Borges, vous voudriez être quelqu'un d'autre?
Non, non, c'est amusant de t'écouter. Il parle français comme moi, avec un accent espagnol, mais oui, de temps en temps, on se fatigue, parce que, et c'est quand on fait des choses comme ça, des entretiens, parler sur soi-même, parce que moi, c'est le sujet le moins intéressant pour moi, parler de moi-même. Et je comprends ce qu'il dit. Je crois que dès que Borges est devenu célèbre, il marchait avec ce fardeau de lui-même sur le dos. Et ça peut être épuisant. J'ai beaucoup de sympathie pour cette remarque.
Et un peu moins pour nous qui vous faisons vous questionner à l'instant.
Oui, oui. Ouais. Mais j'ai accepté, hein. C'est pas que j'ai refusé de le faire.
Depuis Monsieur Vertigo, Paul Auster, on vous s'est fasciné par ce temps de la vie qui est celui de l'apprentissage, celui de l'initiation. Premier baiser, premier regard, premier mot jeté sur le papier. Tout se joue encore aujourd'hui pour vous dans l'enfance.
Oui, j'ai remarqué que quand j'ai vieilli, et j'ai arrivé dans mes années 60, que mon enfance revenait plus forte que jamais. Les choses oubliées, refoulées, sont ressurgies, et tout d'un coup j'étais entouré des choses du passé. Je crois, avant d'écrire ce roman, J'ai écrit deux livres de non-fiction, autobiographiques, chroniques d'hiver et excursions dans la zone intérieure. C'était la première fois dans ces deux livres, jumeaux plutôt, que j'ai adressé la question de mon enfance. Et en pensant à ça, j'ai découvert des choses De très loin qui est devenu présent encore. Et je crois que l'effort d'écrire ces deux livres a labouré le terrain pour ce roman. Et sans les deux livres précédents, je crois que le roman n'existera pas.
Paul Auster est notre invité jusqu'à midi et demi pour son nouveau roman Gigogne, Monument 4321 qui vient de paraître chez Actes Sud France Culture. Il est midi 21.
Yeah, I'm out that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from.
Et Et 25 ans, Paul Auster, après la publication de votre trilogie new-yorkaise New York, où vous vivez, continue à trouver une place absolument centrale dans votre œuvre. Qui mieux d'ailleurs que Jay-Z pour chanter cette Empire State of Mind? Est-ce que c'est ça, New York? L'empire aussi de l'esprit, le théâtre de tous les possibles pour vous?
Non, pas vraiment. Ce que j'aime vivre à New York, c'est que il y a ce... Tout le monde est là. Et c'est un des rares lieux dans le monde où il y a toutes les cultures, toutes les ethnicités vivant côte à côte. Et sans gros problèmes. Il y a des problèmes, bien sûr, et les violences qui existent à New York. Et des choses qui sont tristes dans cette ville. Mais aussi, je crois, pour être un New-Yorkais, on doit avoir un esprit de tolérance. Et si vous détestez les gens d'une certaine culture, New York, c'est pas le lieu pour vous. New York accueille le monde. 40% des New-Yorkais sont nés ailleurs, dans un autre pays. Et je ne sais pas si on est, tous ces gens sont assimilés, mais ils arrivent à vivre dans le même espace que les autres. Et ça donne à cette ville une énergie inspirante et aussi épuisante parfois, mais c'est le lieu où je préfère vivre. Et Brooklyn surtout, j'aime bien Brooklyn, qui est quand même plus grande que Manhattan. Il y a beaucoup plus de personnes, la population est plus grande. Mais là, c'est vraiment un laboratoire de l'humanité.
Avec des vraies identités à New York, ou est-ce que beaucoup se cachent derrière des trajectoires personnelles, des histoires aussi compliquées ou là encore faites de hasard que celle de votre personnage, Ferguson? On peut peut-être raconter quand même que le livre s'ouvre et l'histoire de ce personnage, de ce héros, sur une incompréhension d'un petit fonctionnaire sur Ellis Island.
C'est une vieille blague. J'ai pas inventé cette histoire. J'ai fait une variation là-dessus, mais... C'est une blague sur l'immigration et ça m'a beaucoup amusé. Et je voulais commencer le livre avec ça. Mais je peux aussi clarifier quelque chose qui est très drôle. Le grand-père de Ferguson, qui quitte Minsk en 1900 pour aller à New York, il prend un bateau qui s'appelle l'Empress de Chine. On dit Empress?
Impératrice.
Il y avait à l'époque une presse yiddish à New York. Il y avait des presses de toutes les langues à New York. Et parfois, ces journalistes ne connaissaient pas bien l'anglais. Alors, un des journalistes yiddish a vu journal américain qui disait Empress of China on maiden voyage to New York. C'est-à-dire, le bateau faisait son premier voyage en direction de New York. Alors, il a mal compris, et le lendemain, dans le journal yiddish, il y avait une qui disait la reine de Chine vient à New York pour trouver un mari. Ça, c'est drôle. Et ça, c'est bizarre. Et ça, alors, il y a deux malentendus dans cette paragraphe, pas une. Une cachée, l'autre dévoilée.
Et c'est là que le juif exilé arrive et on lui recommande de changer peut-être son nom. Et quand il essaye de trouver le nom qu'il avait pensé à donner à ce fonctionnaire des douanes...
C'était Rockefeller.
Voilà, Rockefeller.
On suggère à lui de... s'appelait Rockefeller.
Qui lui aurait pu lui ouvrir les grandes portes du destin, peut-être, de cette famille Rockefeller à laquelle il aurait pu être assimilé. Il répond « Ich hab vergessen », c'est ça, « j'ai oublié
oui. ».
Et c'est comme ça que son patronyme de Ferguson apparaître exactement. Dans l'histoire. Paul Auster, des trajectoires personnelles embarquées dans la grande histoire. Hier, Benjamin Sachs, né le jour de la bombe A dans Léviathan. Aujourd'hui, Ferguson dans 4-3-2-1. Vous êtes très intéressé par cette période longue du XXe siècle aux États-Unis, la manière aussi dont le pays s'est bâti, s'est construit. Vertigo se situait dans les années 20. Aujourd'hui,
oui.
on est plutôt dans les années 60-70 pour l'essentiel de la trame du roman. Mis à part Sunset Park, paru en 2011 avec la crise financière de 2008 pour Toile de fond, la plupart de vos romans s'inscrivent dans le passé. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes un peu fâché avec l'époque contemporaine ?
Non, mais tous les livres se trouvent dans le passé. Sauf Sunset Park. Sunset Park, c'était écrit dans le maintenant avec un M majuscule. Je parlais des choses dans le livre qui s'est passé 2 ou 3 mois avant que je l'écrive. C'était la première et la seule fois que j'ai fait ça. Et c'était un travail passionnant. Et ça m'a épuisé tellement que je ne pouvais pas écrire un autre roman pendant 3-4 ans. Je ne pouvais pas. Mais si on regarde les livres des romans, la vaste majorité sont situés dans le passé par nécessité.
Pourquoi par nécessité ?
Parce qu'on,
vous oblige ?
Le roman, c'est une œuvre de souvenir, toujours. On raconte une histoire qui est terminée. Et si c'est terminé, c'est forcément dans le passé.
Et on laisse aux philosophes, aux penseurs, le soin de nous raconter l'avenir, ou en tout cas de tenter
l'avenir,
de l'imaginer.
Personne ne peut le faire.
Personne ne peut le faire.
Et chaque fois qu'on essaie, on a tort.
Ainsi commence d'ailleurs le livre-essai de notre deuxième invité, Cyrus Vett, qui sera avec nous à partir de 12h55. En dépit de prédictions enthousiastes, selon lesquelles l'innovation technologique va ouvrir la voie à l'utérus artificiel et à la vie éternelle, il est encore vrai que tout être humain naît du corps de sa mère, et que tout être humain meurt. On va en reparler avec Cyrus Vett qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Un grand merci à vous, Paul Auster.
Merci bien.
4-3-2-1 est à retrouver dans toutes les bonnes librairies et vient de paraître chez Actes Sud.